Ce soir, j'ai une potion, j'ai un mot. Peut-être avant de dire ce mot, on va tourner en Actes chapitre, je vais juste vérifier, Actes chapitre 17, verset 6, partie B. Donc, en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Seigneur, merci pour cette parole. L'importance de ta parole qui va durer pour l'éternité, qui tu mets et tu estimes plus haute que toi, Seigneur. Tu estimes ta parole avec une importance très immense, très importante. Ce soir, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, enseigne-nous avec ta parole et remplis-nous avec ton esprit. Merci. Amen. Le mot radical est probablement sur le watch list, probablement sur une liste que le CIA aux États-Unis et probablement les autres agences d'intelligence regardent et écoutent et disent quand ils voient un mot utilisé, ils disent « Ah, on va regarder qui a dit quoi et qu'est-ce qu'ils ont dit et quel contexte. » J'imagine parce que dans le quand tu tapes radical, il est toujours un sens négatif. Je n'ai pas trouvé positif, sauf quand on parle de la Bible. J'ai trouvé dans le monde, radical, ce n'est pas positif. Voilà, mais je vais dire qu'on a un aspect, une connaissance de ce mot aussi signifie quelque chose de tellement positif. Radical. Ce soir, je ne peux pas proposer d'entrer dans une explication que la parole de Dieu et Dieu lui-même et son peuple est radical, ça c'est évident. Mais je vais proposer de dire quelles sont les caractéristiques de notre foi radicale en Jésus-Christ. Et le premier point, c'est notre confiance en Dieu. Job chapitre 13, verset 15. C'est la parole de Job. Voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. Il peut me tuer, mais je fais confiance en lui. Ça, c'est particulièrement extraordinaire. Dieu lui-même peut me tuer, mais je vais faire confiance en lui. J'accepte qu'il en contrôle dans ma vie. Et de voir une illustration de ça. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Nous avons cette histoire, Nebuchadnezzar avec cette grande idée de créer une image. Et cette image va être fabriquée et mise dehors de la ville et les gens sont convoqués par des instruments, et par, bien sûr par la parole du roi Nebuchadnezzar, mais aller là-bas, regarder cette image et quand la musique commence, de se prosterner devant l'image. Et la chose qu'a passé, certains hommes jaloux ont dit ces hommes hébreux, ces juifs, ils ne croient pas la même chose. Roi, tu vas avoir un problème avec ces hommes. Et c'est des hommes fidèles. Ces hommes fidèles devant Nebuchadnezzar. Pas des gens qui cherchent les histoires, mais vraiment les gens fidèles pour servir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nebuchadnezzar a dit, j'écoute que, quand ils sont devant lui, j'écoute que vous n'acceptez pas d'adorer mon statut, mon image. Et ils ont dit, aucun, je suis en train de chercher pour le verset, mais ils ont dit, on n'a pas besoin de répondre. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu qui nous servons pour nous délivrer de la fournaise à Adam et nous délivrer de ta main, au roi. Simon, sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas le statue d'or que tu as élevé. Donc, malgré tout, si on meurt, on meurt. Esther dit la même chose. Je vais aller devant la présence du roi et s'il m'accepte, très bien, s'il ne m'accepte pas, je vais être jugé si j'entre dans sa présence quand il n'a pas demandé. Si je meurs, je meurs. Radical. Parce que nous aimons notre vie. Donc, un comportement qui dit, non, je ne suis pas fou, je suis quelqu'un mesuré, ma vie est calculée, je prends l'attention de servir, honorer mon chef, de travailler bien, de respecter les autorités. Mais je fais confiance en Dieu jusqu'au bout. Richard Wurmbrand était dans une réunion en Roumanie avec tous les membres, tous les représentants des églises, et je crois que c'est de l'autre religion, pas juste les chrétiens. Et c'était convoqué par les communistes, les dirigeants du pays de Roumanie. Et lui, il était là en train d'écouter que ces hommes en train de vendre son âme, en fait, de dire on va faire des compromis, en fait. On va dire, voilà, bravo, Staline, comrade Staline, on va accepter le communisme, on peut travailler ensemble. Et lui, il ne peut pas accepter cette horreur, cette abomination, cette compromis. Et sa femme a dit, écoute, il faut que tu parles. Il a dit, si je parle, tu ne vas pas avoir un mari. Et elle a dit, je préfère d'avoir un mari en prison, d'avoir un lâche, libre. Tu vois, elle a dit, non, il faut que tu parles. Et lui, il a parlé avec audace devant l'Assemblée. Et évidemment, quelques jours après, il était pris par une voiture en train de marcher sur la route et mis en prison. Je crois que c'est plus de 15 ans, si je ne me trompe pas, peut-être plus. Il est des années en prison, torturé et tous. Confiance que Dieu est avec lui. Confiance pour les trois hommes hébreux que malgré tout, il peut brûler dans la fournaise, mais il ne va pas tourner le dos à Dieu. Il va accepter. Confiance que Dieu peut faire tout. Il peut les protéger. Et dans le cas, il a fait exactement ça. Mais Étienne, ça c'est un autre exemple. Actes chapitre 7. Étienne n'était pas un apôtre. Étienne n'était pas un pasteur. Il était un diacre. En Actes chapitre, est-ce que c'est chapitre 6, il était choisi. Oui, Actes chapitre 6, il était choisi avec 6 autres hommes, avec une bonne réputation, rempli de l'esprit, avec la foi. Et il était convoqué, il se demandait avec le code de l'Assemblée de servir aux tables, parce qu'évidemment, les apôtres, ils n'ont pas le temps d'entrer dans quelque chose de plus administratif, afin que les verbes dans l'Église peuvent être nourris. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il est honoré. Il y a un proverbe qui dit, un homme qui est fidèle devant Dieu ne va pas parler devant les gens ordinaires, il va parler devant les croyants. Et c'est exactement de ce principe qu'on voit avec Paul dans sa vie, on voit ici avec Étienne devant le Sanhédrin, tous les dirigeants d'Israël en fait. 70 dirigeants. Et il a parlé avec audace. Il a donné, c'est comme teaching your mother to suck eggs. C'est comme l'expression, on a une expression qui dit, pour ceux qui connaissent très bien, c'est comme tu enseignes ta mère comment il faut faire la cuisine. C'est pas le cas, mais avec eux, c'est une expression. C'est des érudits, c'est des gens bien fondés dans la parole qui peut mémoriser la parole de Dieu, l'Ancien Testament, évidemment, par cœur. Et lui, il fait un discours qui suit plus de 51 références de l'Ancien Testament directes et plus de références indirectes. Il note, il fait un chemin d'explication de tout Israël, tout qui a passé depuis le début, avec Abraham jusqu'au bout avec Solomon et David. Il dit, écoute, vous êtes toujours le même comme vos pères, en train de résister Dieu parce que vous avez des nuques et les têtes tout. Vous êtes en résistance. Vous êtes meurtrier. Vous êtes meurtrier, en fait, comme vos pères. Et il était tué, évidemment, pour sa foi. C'est bizarre de voir comment tout est passé, mais de voir sa confiance en Dieu. Une confiance en Dieu qu'être déjà devant un ensemble de gens qui peuvent facilement intimider. Parce que c'est intimidant d'être devant une foule de gens, mais d'être devant des gens qui sont hostiles, si, en fait, qui va évidemment rejeter la parole. C'est pas les gens, c'est pas comme on prêche ici un dimanche matin et tous les gens disent Amen, Seigneur, et on sent l'amour et on a un sens de réceptivité. Non, c'est une foule de gens qui veut tuer. Et après, il a fini, ils ont fait exactement ça. Mais il n'était pas hésitant avec ses paroles. Il a complètement confiance en Dieu. Ça, c'est radical. Ça, c'est radical d'accepter, OK, Seigneur, je fais confiance en toi. 2 Timothée chapitre 4, Paul seul, c'est facile pour nous d'être audacieux quand on est entouré par les autres. C'est bien, quand on évangélise, on préfère d'être avec les autres. Mais quand on est seul, et d'être dans nos vies des moments qu'on est seul, et on doit vivre devant Dieu, et des fois on est appelé de faire des choses, on va par la nature, par la vue, on va hésiter de faire parce qu'on n'est pas entouré avec les autres s'il y a des problèmes. On facilement veut tenir sur quelqu'un d'autre pour aider. Mais Dieu est en train de dire, écoute, l'aide de le corps de Christ est important. D'avoir cette relation est important. Mais il y a des moments qui vont passer quand on est seul et on va être devant les autorités, devant les gens. Et on doit vraiment faire confiance en Dieu. Et on est en train de découvrir ça petit par petit dans les domaines de notre vie. Vois Pierre en train de marcher sur l'eau. Je pense que c'est un verset que j'ai noté ailleurs. Mais il était préparé pour ce moment. Et il a fait confiance. Dieu a appelé Jésus-Christ, viens, saute le bateau. Et il a fait. Il était testé dans un domaine de sa vie et c'était lui seul qui était convoqué, appelé. C'était pas Jean, c'était pas Jacques, c'était pas Matthieu. C'était lui et lui seul. Et quelle est l'application pour nous si on voit ça? Il développe, augmente notre confiance en lui. Non, pas augmente, il va purifier la foi que nous avons déjà. Une qualité de la foi qu'on va découvrir, c'est une forme d'honorer Dieu pour le. Quel est le mot? On utilise le mot en anglais. Je sais, on avait un débat sur le mot qui était à propos. Promotion, avancement, exaltation. D'être honoré. Ça veut dire, il y a des moments que Dieu va dire, OK, tu vas passer par une épreuve. Fais confiance en moi. Ta foi va être purifiée. Tu vas grandir avec moi. Et tu vas découvrir la verticale avec moi. Grâce à ça. Donc, acceptons et entrons entrant, on peut dire ça, dans les tests et les moments de testing, le moment de peut-être d'épreuve dans nos vies, peut-être seules, parce que le Seigneur veut que dans ces moments de solitude, qu'on peut grandir. Vraiment, c'est ça. Paul, tu es seul à la fin de ta vie. Tu es entouré avec probablement 12 personnes, 12 hommes. Avec, quand tu arrives à Philippi, il avait 4. Paul, Silas, Timothée et Luc. Et ils sont invités dans la maison de rester avec Lydie. On va parler de ça dans une minute. Mais juste pour dire, il était toujours entouré par les autres. Mais à la fin de sa vie, il était seul. Personne avec moi, il a dit. Personne était avec moi quand j'étais devant César. Mais le Seigneur était avec moi. Vois la confiance. Le Seigneur, on va lire le verset. 2 Timothée chapitre 4. Il a parlé de Démas à l'abandonner. Luc seul est avec moi. Ok, il a dit 17. Merci. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'attendissent. Et j'ai été délivré de la gueule de lion. Personne n'était avec lui finalement à la fin de sa vie, en train d'écrire cette lettre à Timothée. Et personne n'était là pour aider. Sa défense est restée sur lui. Bien sûr, Dieu a fait ça. Ce n'était pas lui et lui seul. On ne va jamais être seul. Mais confiance en Dieu est radicale parce qu'on est dans un monde que les gens tiennent avec sur eux-mêmes et sur les autres. Confiance en Dieu. Proverbe chapitre 3, verset 5. On va lire le verset. C'est un life verse, c'est un verset pour ma vie. C'était le verset que Dieu a donné quand j'ai demandé si je dois marier Isabelle ou pas. Et est-ce que je dois aller au institut biblique en États-Unis? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ni aussi pas sur la sagesse de quelqu'un d'autre. Juste parce que Robert et Eric sont là, je peux dire, Paul est évident, juste parce que nous avons un groupe ici dans la salle, ce n'est pas vous qui donnez la confiance, c'est le Seigneur qui donne la confiance. C'est, il donne la confiance à chacun. Évidemment, dans l'Église, nous sommes en train de grandir ensemble. Et bien sûr, un jeune, quelqu'un qui vient, qui est un peu timide ou un peu discrète, va être plus confiant si un groupe de gens qui sont amicables et qui invitent, et généreux, bien sûr, on va se sentir plus soulagé, plus accepté. Mais finalement, ce n'est pas de dire qu'on doit être méchant avec les gens, mais simplement de dire qu'il y a un moment dans notre vie qu'on est seul. Et on doit faire confiance en lui, tout ton cœur, toute ton âme. Deutéronome chapitre 6, ce n'est pas une question de faire confiance en ma sagesse personnelle. Toutes les années que j'ai fait les cours bibliques, j'étais missionnaire, j'étais là. Non, on ne fait pas confiance dans ces choses. Ce n'est pas notre expérience qui compte. C'est chaque parole qui saute dans sa bouche. C'est d'être rempli avec l'esprit dans ce moment. C'est ça qui va aider. C'est ça qui en a besoin. Et la deuxième chose, le deuxième point qui est radical dans notre vie, on discerne que Dieu parle. Luc chapitre 10, verset 39. Luc 10, 39. Jésus entre dans la maison de Marie et Marthe. Et maintenant, nous avons Marie présentée pour nous par Luc. Et là vient une sœur nommée Marie qui s'attend assis au pied de Jésus à écouter sa parole. C'est indispensable pour nous de discerner quand Dieu est en train de parler. Dieu parle. Comment? Par les circonstances, par un frère ou sœur, par notre lecture quotidienne de la parole de Dieu, par la prédication de la parole sur le pupitre. La parole va être communiquée dans plusieurs manières. On va écouter Dieu. Et le principe d'un double ou triple témoignage est que Dieu parle, c'est Psaume 62. Une fois que Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu que la puissance vient de Dieu. Ça veut dire Dieu parle une fois et deux personnes ont entendu. Donc, c'est comme Betty a entendu Dieu parler ce matin par la dévotion. Moi, j'ai écouté un message de pasteur Shala. J'écoute la même chose. Betty, le soir, dit, écoute, j'ai une dévotion aujourd'hui. C'était magnifique. Et c'est le même verset dans le même contexte. Et donc, Dieu a parlé deux fois. C'est un double témoignage. Et on ne cherche pas pour la subjectivité. Il faut avoir deux ou trois témoins pour établir un fait. Ça, c'est Moïse. Et Jésus a confirmé ça. Donc, elle était assise, Dieu en train de parler. Elle a dit, c'est pas le moment de faire le vaisselle. Maintenant, c'est le moment. Après, ça va être le moment de faire le vaisselle, bien sûr. Marthe, occupée, chargée, Marthe, elle a une mauvaise réputation. On dit en anglais « bad rap ». Elle a une mauvaise réputation parce que les gens pensent « Ah, Marie était tellement spirituelle et Marthe n'est pas spirituelle. » Les deux sont spirituels. Les deux. Mais un a discerné la parole dans ce moment. Donc, on ne juge pas l'autre. Ça veut dire ça. On ne juge pas juste parce que quelqu'un n'était pas peut-être sensible à ce moment. Mais on peut encourager. Écoute, tu es en train de parler. Vraiment, c'est un moment. Donc, Dieu parle, on écoute. Les hommes écoutent, les débutants écoutent avec joie. Ceux qui sont humbles disent, ah, Dieu parle, et on va avoir joie d'écouter. Néhémie chapitre 8, on a répété cette histoire une fois, deux fois, plusieurs fois. Mais c'était le moment que Esdras a cherché la parole. Et les gens ont dit, cherche la parole, Esdras, on est là. Et donc, radical, dans tel sens, que des hommes et des femmes, et je pense que, oh, je ne sais pas si des enfants étaient là, sont debout pour écouter. Et Esdras, il avait un pupitre construit de bois, et il est en train d'enseigner, avec l'aide de les Lévites à côté de lui. Et lui, il a prêché. 6 heures, il explique la loi. 6 heures, debout comme ça. 6 heures jusqu'à midi. Donc 6 heures. Et les gens sont réceptifs. Comment ça, c'est possible? Dans notre culture, impossible maintenant. Tu prends 10 minutes debout comme ça, on va commencer à trembler. J'ai besoin de la chaise, évidemment, on n'est pas en train de dire on va mettre quelque chose en place comme ça, mais simplement pour dire, c'est la parole de Dieu. Notre foi est radicale. Et des autres voient et disent, vous êtes complètement fous. Non, on n'est pas complètement fous, mais Dieu va parler. Il va parler à 10h30 dans cette église. Il va commencer à parler avant ça, mais on va être ensemble. Et le Seigneur va dire, ah, vous êtes tous ensemble. Très bien. On commence à discuter, on commence à louer. Je vais parler avec vous. Et on commence à adorer. et les paroles amenées, et on croit que Dieu est en train de parler. Et je crois que Dieu est en train de parler aussi, parce que ce n'est pas naturel de faire ça. Ce n'est pas naturel d'entrer dans un pupitre et commencer à prêcher la parole. C'est naturel de prêcher la politique. C'est naturel de prêcher la culture. C'est naturel de peut-être donner un avis sur un loisir ou les choses en train de passer dans le nouveau à ce moment. C'est naturel. C'est naturel peut-être de parler de sport. Mais quand on parle de Jésus-Christ, quand on commence à communiquer, ça, ce n'est pas naturel. Et quand on dit « il a dit », Je suis. Avant Abraham, je suis. Quand Dieu commence à parler comme ça, il y a deux possibilités. Il est complètement à côté de la plaque, ou c'est vrai, il est Dieu. Et on est convaincu que Dieu est en train de parler. On discerne ça. On met les oreilles comme un chauve-souris. On dit, waouh! Le Seigneur visite son peuple. Une visitation de l'Esprit de Dieu. À ce moment, on Asbury University en Kentucky, États-Unis. Maintenant, je crois que c'est fini, mais cette université est un lieu de réveil plusieurs fois. Et on est maintenant le... Quelle date on est maintenant? 22, le 8 ou le 9 février, ce mois. Un pasteur a prêché, c'était un enseignant dans l'université, a prêché un message sur le sujet de l'amour. 8 février, c'est possible d'accéder sur le site web. Asbury University. Il a prêché un message, il a enseigné un message assez tranchant. C'est quelque chose qu'on écoute à Baltimore, c'est quelque chose qu'on enseigne. Un réveil a commencé. Les gens étaient là chaque jour. Et l'université ne peut pas commencer à fonctionner normalement. Les gens sont là pour adorer le Seigneur. Les gens viennent d'ailleurs. Écoutez, je sais qu'à Baltimore, que des étudiants de MBCNS, ils ont descendu, un groupe a descendu pour visiter cette université et d'assister et écouter. J'ai vu une émission un peu, ils ont donné dans un culte de dimanche matin, qu'ils ont parlé de ça. C'est quelque chose d'extraordinaire, comme on sait. Et c'est comme le feu. Tout était sec et le feu, comme ça, et bouf! Et c'était un moment que le Seigneur a visité son peuple. Et c'était des gens qui priaient, qui repentaient, en train d'adorer Dieu. La parole était communiquée, qui était prêchée, enseignée. Et c'est des jeunes. C'est des jeunes qui étaient, waouh, ils ont reçu. Voilà, c'était quelque chose de radical. Parce que l'université, le professeur, l'enseignant responsable dans l'université, il a parlé, il a donné un discours pendant ce réveil. Il a dit, est-ce que ça nous convient? Non, absolument pas, parce qu'on ne peut pas fonctionner, on ne peut pas faire les cours, on peut pas. Le fonctionnement, bien fonctionnement de l'université arrête pour cette réveil. Est-ce que nous avons un agenda politique? Absolument pas, sauf que Jésus-Christ est glorifié. Il a parlé de plusieurs choses pour dire, écoute, il y a quelque chose d'extraordinaire en train de passer ici. Et j'ai dit, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, waouh! On discerne quand Dieu parle. Et des fois, comme ça, c'est des moments ponctuels. Ce n'est pas tout le temps. Un réveil comme ça, ce n'est pas on passe 40 jours et tout ça. Non, c'est fatigant, c'est un pourri de temps parce que c'est comme un feu qui va approcher les autres endroits secs et le feu va continuer ailleurs. Et ça va continuer de faire un réveil dans les cœurs des gens. On fait un réveil ici. Il y a un réveil de cœur. On prêche la parole, on cherche Dieu, quelque chose passe. Ça s'appelle par Pastor Stevens Word of God Revival, le réveil de la parole de Dieu dans le cœur d'un homme ou une femme. C'est ça qui passe. Et ça, c'est ce que je veux. Je ne veux pas qu'on ait les gens associer le mot réveil avec des choses un peu bizarres. Des fois, il y a des connotations, un réveil, et les gens commencent à faire des choses bizarres. Non. Un réveil, les gens commencent à repentir, les gens commencent à prier, les gens passent le temps, jeûnent peut-être aussi. C'est des choses radical, c'était ponctuel, et après nous avons comme une vague qui passe. Est-ce que c'est le premier grand réveil en États-Unis? C'était avant le. Est-ce que c'est avant la guerre d'indépendance? Je crois que c'était avant la guerre avec les Anglais, parce que nous, on était tellement méchants avec les Américains. Et après ça, le deuxième réveil, c'est juste avant la guerre civile en États-Unis aussi. C'était de préparer le peuple pour quelque chose. Dieu a visité son peuple pour préparer le peuple pour peut-être un temps très difficile. Discerner quand Dieu parle, ça veut dire je ne vais pas être absent. Je vais être un peu, pas sec, mais un peu radical dans ma parole. Quand Dieu parle, je vais écouter. Si Netflix, il y a une bonne série sur Netflix, il n'y a pas beaucoup de bonnes séries, il y a beaucoup de choses médiocres. Et ça, c'est le meilleur terme, on peut dire autre chose. Mais oui, des fois, juste pour l'écrire, il y a des bonnes choses aussi. Mais chaque fois que quelque chose est dans la télévision, dans l'émission, les gens suivent obsessivement. Il y a quelque chose qui s'appelle le jeu de trône, c'est passé, c'était quelque chose de fantastique qui est passé en Suisse et en États-Unis pour une certaine période de temps. Horrible. On ne va pas parler de ça, je ne vais pas donner ça. Simplement pour dire, les gens sont obsédés de suivre quelque chose qui n'était pas sain, pas honorable. Et avec une obsession, on ne va pas rater ça ce soir, on va être là, on va préparer de télévision pour écouter. Mais quand la parole de Dieu est prêchée en série, tune in, on va connecter pour JGW, il y a quelque chose qui va passer ce soir ici. Et après, il y a quelque chose samedi aussi, il y a quelque chose jeudi. Je ne veux pas perdre un moment parce que Dieu parle. Je veux être là parce que, bien sûr, des fois, c'est moi qui prêche. Donc, mais je veux être là parce que Dieu va bouger. Il va bouger nos cœurs. Il va préparer son peuple. Hurricane, ça, c'est un moment pour discerner Dieu quand il parle. Parce que je vous assure, ça peut définir nos vies. J'étais le premier hurricane. Dieu a parlé et j'ai fait quelque chose assez radical après ça avec mon travail. Parce que Dieu a dit, c'est le moment de partir, c'était radical. Je promets, ce n'est pas quelque chose que chacun doit faire. Ça, c'était une situation précise pour moi, dans un moment avec un contexte. Mais pour dire que c'est important, ah oui, quelqu'un est en train d'appeler, on va continuer. Pour dire que c'est important quand Dieu parle de ne pas être distrait par les autres choses. Laissons Dieu parler, être assis comme Marie. Troisième chose, notre humilité est radicale. Pourquoi que notre humilité est radicale? Parce que Philippiens chapitre 2 parle de Jésus-Christ qui a laissé tomber sa propre réputation, Dieu lui-même, pour arriver au ciel, pour être incarné, d'être un enfant, d'être né d'une vierge. Ça, c'est radical, on ne peut pas imaginer ça. Et de vivre sur la terre pour 33 ans, le dernier 3 ans de préparer l'Église et de mourir sur la croix pour nous. Dieu lui-même, toute puissance, mort sur la croix. Et lui, d'être humble. Humilité, de servir son peuple. Un exemple de son humilité, laver les pieds des disciples. Le Messie lui-même d'Israël en train de laver les pieds des disciples. Ça, c'est quelque chose pour un serviteur ordinaire dans une maison. Ce n'était pas absolument pas pour un roi. Et Jésus-Christ est le roi. Imagine ça, Dieu lui-même qui a créé l'univers est en train de laver les pieds, probablement pas très... Il est en train d'être là. On pense que Dieu va être dégoûté, pas nos vies, mais il a fait beaucoup plus pire que ça. Clouer un croix avec deux voleurs, un côté et l'autre. Dieu a descendu presque là pour nous. Radical au croix. Radical, humble, une humilité. On est dans un monde que les gens cherchent pour précédence. Et ils sont gonflés, ils sont arrogants, ils disent, voilà, regarde, moi, je parle de ça. Sans cesse, nous avons des gens en train de proclamer, voilà, juste, oui. Et l'homme de Dieu et la femme de Dieu, on est où? On n'est pas les gens qui parlent, on est les gens qui laissent Dieu parler au travers de nos vies. Donc, humilité n'est pas proclamée par nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui proclamons notre grandeur. C'est nous qui parlons. On ne parle pas, en fait. C'est quelqu'un d'autre qui va parler. Et nous, on va laisser Dieu de nous honorer. On va pas. Donc, les gens qui cherchent d'avoir une réputation, ça, ce n'est pas l'humilité. Et ce n'est pas la façon de faire des choses bien selon Dieu. C'est de chercher de perdre pour gagner beaucoup plus. Parce que chercher pour une réputation, ça va disparaître dans 2 minutes. 3 minutes. Chacun peut être célèbre pour 10 minutes. Ça, c'était... quel est son nom? 10 minutes. Oh, oui, je sais. Il était... Andy Warhol. Un Américain un peu excentrique, on peut dire plus de ça, a dit, vous pouvez être célèbre pour 10 minutes ou 5 minutes. 5 minutes. Et Dieu, avec Dieu, on va être honoré pour l'éternité. C'est hors de question. Humility, d'être humble. C'est nous qui sommes discrètes, mais c'est nous qui va être honorés. Voir comment ça, c'est radical. J'étais dans une réunion, j'étais convoqué pour un embauché pour un travail et devant tout le monde en train de montrer pourquoi il faut être choisi pour un candidat pour le travail, le rôle. Et c'était ridicule. C'était complètement une farce. Une blague, c'était une blague. Oh, voilà, regarde, moi, je suis là. Non, oui, on est nos actes, notre vie, notre humilité parle dans ce monde. C'est nous, pas notre absence de se gonfler comme tout le monde. Va parler aux autres. Autorité. Autorité est le 4e point. Authority, on peut dire comme ça, Lydie était absolument convaincue après elle était sauvée, après être accepté Christ, comme Paul a parlé. Paul, si je suis digne, si vous me considérez digne, demeure dans ma maison. Et ils ont fait exactement ça, Paul, Silas, Luc, Timothée. Et c'était le début de l'Église en Philippines, dans la région. Elle était convaincue, elle peut parler avec autorité et pas avoir quelque chose clair, précis pour dire. Elle n'est pas hésitante, pas indécisive. Il faut qu'on ait la blague. J'étais dans ma passé un peu indécisive. Maintenant, je ne suis pas très sûr. Mais honnêtement, oui, c'est une blague britannique, ne quitte pas. Mais il faut savoir... Quand on est décisif maintenant, on a une authority dans notre vie. Quand on dit oui. Si on dit non, c'est non. Si on dit rien, on dit ok, je vais fermer la bouche parce que je ne veux pas proposer de choses qui n'est pas possible. On dit le mot un homme et une femme de sa parole. C'est ça. Authority, les gens sont... Wow, avec eux, je déteste, mais je suis sûr, je connais exactement cette personne. Je suis plus, secure avec cette personne parce que cette personne est vraie. Vraie dans son pot, vraie, ils ne sont pas en train d'imiter ou d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Ils sont vraiment eux-mêmes. Authentique. On est authentique. C'est ça, on est avec authority et on est authentique. Ecclésiaste chapitre 8, verset 4. Ça, c'est authority. Parce que la parole de Dieu est puissante et qui lui dira, qui fasse-tu? C'est ça, la parole d'un roi est puissante. Ça veut dire quoi? Le roi Jésus-Christ a parlé. Et nous, on parle aussi, on parle et confesse ses paroles, ses pensées. Il est impuissant, ceci, parce que nous avons la parole. Les hommes parlent souvent les paroles vaines, éphémères, comme le vent. C'est maintenant oui, c'est maintenant non. Peut-être demain non. C'est oui ou c'est non. Et on est sûr avec ça, on peut établir les relations avec une parole qui est... On ne veut pas avoir des promesses de quelqu'un qui dit peut-être. On est en train d'être formés, d'être des hommes et des femmes de la parole qui va dire, si j'ai quelque chose digne à dire, je vais le dire. Sinon, je ne vais pas dire. Je préfère de parler avec une valeur. Pourquoi? Parce que la parole est en nous, premièrement. Donc, on est un contenu, on est quelque chose à dire. C'est en Jean chapitre... je suis en train de chercher. J'ai noté. Jean 8, 37. Un reproche pour les pharisiens. Vous m'écoutez pas parce que ma parole n'a aucune place en vous. Mais par contre, le positif est vrai. La parole a une place dans nos vies, donc on a vraiment quelque chose à dire. On a des discours importants, quelque chose on peut dire dans une conversation avec les autres, parce que la parole est là. Et la parole en Ecclésiaste chapitre 5, verset 2, est très peu. Dans nos conversations, on ne va pas parler longtemps. Il y a des gens qui sont tellement des experts, des bavards. Bavage, c'est beaucoup de vent. Mais l'homme de Dieu et la femme de Dieu qui parlent, c'est, oh wow, on va écouter ça. Pourquoi? Parce que quand il parle, il a quelque chose vraiment à écouter. On discerne que Dieu parle. Et il a une sagesse là. Et en plus, quelqu'un avec une autorité comme David peut dire, écoute Goliath, tu parles, mais vois mon Dieu avec moi et ta tête va partir de ton corps dans 2 minutes. Après 2 minutes, c'est fini. Donc, Goliath en train de dire, voilà, 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 en train de dire des choses. Et les Philistins derrière en train de moquer David. Et David a dit, écoute, mon Dieu est fidèle. Il avait une autorité, et parce qu'il avait une autorité, ceux qui sont avec lui, Saul, Jonathan, tous les peuples, son propre frère, peut dire, écoute, il y a quelque chose en train de passer. Cet petit jeune homme, il a quelque chose en lui, il a Dieu. Autorité, ça c'est radical. D'avoir un jeune qui peut dire, je fais confiance en Dieu, et quand je parle, il a une autorité, parce que la parole d'un roi est là, et si la parole d'un roi est là, il a une puissance. Puissance. Et point numéro 5, et je pense que j'ai presque fini. Et ça, j'aime beaucoup. On est tellement imprévisible. Radical parce qu'on est imprévisible. Ça veut dire, OK, je vais expliquer le contexte. Est-ce que nous sommes disciplinés par Dieu? Est-ce qu'il y a une discipline dans notre vie? Organisation, structure, un plan, un emploi de temps? Oui, un amen, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. 1 Corinthiens chapitre 12, est-ce que c'est verset 27? Dieu est un Dieu d'ordre. Non, peut-être pas 27. Est-ce que c'est chapitre 14? OK, je vais passer à le prochain. Dieu est un Dieu de paix et pas des autres. Donc, si Dieu est en autre, nous sommes en autre aussi. Nous avons une organisation, une structure, une discipline dans nos vies. Les gens peuvent dire, si l'Église se réunit ici à 10h30 dimanche, je fais confiance que l'Église va être là. Je peux avoir confiance qu'il est quelque chose de solide, concret, qui passe ici, mais il est quelque chose de plus que ça. Imprévisible parce qu'on ne connaît pas ce qui va passer dans les prochaines 5 minutes. On ne connaît pas ce que Dieu va faire avec nous. Je sais ici, peut-être il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. On va aider. On va être là pour servir quelqu'un. Un exemple de la façon que Dieu était imprécise. Pierre était en train de jeûner, mais il a fini son jeûne, donc il était sous le toit de Simon, dans c'était à Joppa. Donc en train d'attendre pour le cuisine, pour quelque chose d'être préparé. En plus, Corneille, un Romain, donc un Romain ici, pas un Juif, a reçu un rêve, il a reçu une vision d'un ange qui dit, Corneille, tes prières étaient au moins c'était regardé devant Dieu. Maintenant, envoie des serviteurs d'Ajoppe, d'une maison d'un homme qui s'appelle Simon, et appelle pour Simon Pierre, qui va venir chez toi. Et quelque chose va passer. Donc, ce prix pour Corneille, ce prix pour Pierre. Pierre était amené, il arrive, il dit, qu'est-ce qui est en train de passer ici? Je ne sais pas, qu'est-ce que se passe dans la maison d'un Romain? Ils sont les gens qui sont notre oppresseur dans notre pays, on déteste les Romains. Donc il était devant Corneille, Corneille a dit, Dieu a parlé, et nous sommes tous là, ses amis, ses serviteurs, toute sa maison, en train de dire, ok. On va écouter, Dieu va parler. Qu'est-ce que se passe? Il commence à parler et le Saint-Esprit est descendu sur ses croyants et tout était sauvé. Comme ça. Improvise ou quoi? C'est des choses qu'on ne peut pas planifier. Et ça, c'est la chose que j'aime de la vie chrétienne. On planifie, on organise nos vies. C'est bien de mettre les chaussures comme ça. C'est bien d'avoir tout propre dans la maison. C'est bien d'avoir la voiture propre. Oui, je parle d'avoir une organisation. J'ai un agenda, je vois qu'est-ce que je vais faire demain et la semaine prochaine. Mais c'est bien aussi d'avoir la liberté de laisser le Saint-Esprit d'entrer et dire, écoute, laisse tomber tout, suis-moi. Pierre, tu as planifié de manger quelque chose. Oui, tu vas manger, mais deux serviteurs vont arriver et tu vas les amener et parler avec Corneille. Donc, laissons Dieu de bousculer notre agenda, notre emploi de temps. Le Samaritain, dans le parable du Samaritain, le bon Samaritain, était disponible. Et quand il a vu l'homme en train de mourir, presque mourir, blessé sur la route, il a laissé tomber son plan pour amener cet homme dans un abri pour être guéri. Donc, il était flexible dans son plan. Ce n'était pas planifié pour cette journée. Pierre, sur un bateau dans un orage, n'appelait pas Jésus de sortir le bateau. Est-ce que Pierre t'a noté ça dans son agenda, la journée eux-mêmes? Je ne pense pas. Il n'avait pas dit aujourd'hui je vais marcher sur l'eau et je vais aller aussi devoir connaître. Non, il n'a pas noté ça de tout. C'était imprévisible. Et il faut savoir, quand on a une vie imprévisible, c'est bousculer les gens aussi. Parce que les gens voient qu'on n'est pas. Est-ce que l'expression pousserie, on n'est pas vieillot, on n'est pas conventionnel, on n'est pas, voilà, on fait tous comme ça. Non, on n'est pas vieillot, on n'est pas conventionnel, on est, jette ça dehors de la fenêtre. On est prêt pour écouter Dieu et quand Dieu parle, on peut aller. Voir tous les exemples dans la Bible, les gens qui sont bien soumis. Est-ce que les Toigar et Bo sont prêts pour aller dans un fournaise et Daniel aussi pour visiter les lions? Ce n'était pas planifié. Non, pas planifié, mais ils étaient prêts pour tout. Nous, il faut accepter que Dieu va casser nos préceptes, nos idées, nos conceptions de qu'est-ce qu'il faut faire d'être un bon chrétien. D'être un bon citoyen aussi. Des fois, on va bousculer les autres et les gens vont dire, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans cette église, mais ces gens sont vraiment... voilà, les choses bousculent. Et si on va bouleverser le monde, et on est en train de bouleverser le monde dans la bonne direction... c'est bien. Et le diable, une dernière chose, le diable ne connaît pas, il ne comprend pas, il déteste et il ne peut pas prévoir les choses en fait quand on marche selon Dieu. Parce que la grâce est un mystère pour lui, un mystère qu'il déteste, et qu'on vit par l'esprit, je pense qu'il avait un grand problème de comprendre comment il faut faire les choses. Parce qu'on est entouré par les disciples, on est couvert par Dieu, et il ne va jamais voir ce qui est en train de passer. C'est des choses imprévisibles pour le diable aussi. Donc, encourageant pour nous de savoir notre vie est ordinaire et aussi radicale parce que des fois, c'est imprévisible. Voilà. Donc, juste pour savoir, on est radical pas parce qu'on cherche d'être radical, mais parce qu'on n'est pas de ce monde et on peut être le plus conventionnel qu'on veut, mais Dieu va bousculer notre monde aussi parce qu'il veut qu'on vit une vie de liberté, de spontanéité. On doit être prêt pour tout. Prêt pour tout de toucher le monde. Prêt pour tout d'encourager. Moi, je n'ai pas programmé de parler avec les gens après le culte dimanche. Je n'ai pas un programme. Je simplement dis, Seigneur, j'ai besoin d'être disponible pour servir les autres. Après, j'ai fini. Je suis disponible. Je suis là. Conduis-moi vers les gens afin que je puisse avoir des conversations de qualité éternelle pour édifier, encourager, pour conseiller peut-être quelqu'un, pour prier avec quelqu'un. Et c'est bien parce que quand on est fini le culte, c'est pas OK, maintenant j'ai fini la prédication, maintenant je. Non, je veux être défié dans ma foi. Quand je fais les vaisselles dans la maison, c'est pas je fais le chose pour Dieu et maintenant je mets de côté et je bois un café. Non, je veux être prêt pour tout. On est sorti ici samedi, on a décidé d'avoir une journée un peu décontractée, on a parti. On était à temps proche d'Annecy et là-bas on a croisé sur une petite route, c'est pour la route de Calvaire qui était sur une colline. Et on a marché, on est arrivé devant cette église qui était abandonnée sur une colline. On a vu un jeune homme et j'ai dit OK, j'ai dit traité. Et on a parlé avec lui pour quelques minutes. Ce n'était pas planifié, je peux avoir un aspect un peu religieux, un peu radical, non pas radical, légaliste. Je veux dire non, OK, ce n'est pas l'heure pour faire des choses pour Dieu, ça va être demain. Aujourd'hui, c'est pour moi. Donc, je vais, on dit en anglais clock off. Clock off. Je fais. Dépager. Ça veut dire que j'ai une carte. Quand j'entre dans l'entreprise, comme ça, OK, je suis là, je travaille, je mets la carte pour sortir à la fin de la journée. Non, ce n'est pas comme ça avec Dieu. Ce n'est jamais comme ça. Bien sûr, on a le temps de reposer. Il faut. Samedi, crash. Voilà, on va reposer. Mais on est prêt si Dieu nous amène vers quelqu'un. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut passer avec ce jeune homme. Nicolas, on prie pour Nicolas. Peut-être une parole peut toucher son cœur. Peut-être un témoignage peut changer le destin. Il va amener au Christ et pas au enfer. Voilà, on est serviteur pour Dieu. 24 heures, 7 jours par 7, bien sûr, on a le droit de reposer. Mais radical, la vie est radicale. Pas juste le pasteur, mais nous tous. Que Dieu vous bénisse.